Depuis le studio de Radio Kapi Bounia dans la province de l'Ituri, nous vous disons bonsoir. Assemblée nationale, le doyen d'âge des députés Mboso Kodia, assisté de deux plus jeunes députés, ont pris hier mardi les commandes du bureau de la Chambre basse du Parlement après deux jours de vives tensions entre les députés pétitionnaires et les pro-bureaux Mabunda. Installé par le directeur des ressources humaines de l'Assemblée nationale, le secrétaire général étant suspendu, ce bureau a immédiatement convoqué la plénière pour demain jeudi à 10h afin d'examiner les pétitions contre le bureau Mabunda. Mais déjà, le bureau de l'Assemblée nationale dénonce ce qu'il qualifie de coup d'État parlementaire, signalant que plus de 250 signatures ont été recueillies selon les pétitionnaires. Quelle lecture faire de cette situation? C'est le thème de Dialogue entre Congolais de ce mercredi 9 décembre 2020. Et pour en parler, je reçois dans cette émission pour le débat professeur Daniel Mbao Soukissa. Il est député national et secrétaire national du MLC en charge des questions juridiques et des droits humains. Professeur Mbao, bonsoir.
Bonsoir, madame.
François Nzekouye, député national et porte-parole du PPRD, parti membre du Front commun pour le Congo, FCC en sigle. François Nzekouye, bonsoir.
Bonsoir les auditeurs de la radio Kapi.
Et dans ce studio de Bounia, avec moi, Josca Kanindi, analyste politique et éditeur du journal Le Millénaire, paraissant à Bounia en Ituri. Josca Kanindi, bonsoir.
Bonsoir madame, bonsoir aux co-débatteurs et je vous souhaite bienvenue en Ituri.
Merci beaucoup. Les auditeurs sont très nombreux à réagir au thème de ce soir. C'est le cas de Gloire Namegabe depuis Bukavu Sud Kivu. Je pense que nous allons petit à petit vers la démocratie car ces histoires d'autorité morale constituent une dictature légalisée par le FCC. Je proposerai à nos députés de briser la peur et de donner de l'espoir au peuple comme le prône le chef de l'État. Maître Bouchiri Kale depuis Kinshasa, ce que nous vivons ces derniers temps au Parlement de notre pays n'est qu'une conséquence de l'immaturité politique et le manque d'intérêt pour la nation de nos élus. La démocratie n'est pas la violation de la loi, mais le respect de toutes les dispositions. Merci de nous suivre à Kinshasa sur la 103.5. Et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radiokapi.net. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions en appelant au 081 890 66 78 ou nous écrire par SMS au 081 051 57 78 et par mail, écrivez-nous à tech@radiokapi.net.
Au Parlement, le doyen d'âge des députés, Mboso Kodia, assisté des deux plus jeunes députés, ont pris hier mardi les commandes du bureau, entre guillemets, provisoire de la Chambre basse du Parlement. Ce bureau a immédiatement convoqué la plénière pour demain, jeudi à 10h, afin d'examiner les pétitions contre le bureau Mabunda. Mboso Kodia, 78 ans, Aminata Namasia, 27 ans, et Gaël Boussa, 27 ans aussi, tous du FCC ont été installés en présence des plus de 279 député Michel Kifinda nous en dit plus.
C'est dans cette ambiance des fêtes que s'est tenue tard dans la soirée la plénière prévue à 11h et retardée suite au désordre observé entre les partisans du PPRD et ceux de l'IDPS. Malgré la suspension du secrétaire général de l'Assemblée nationale, le bureau d'âge a tout de même été installé par le directeur des ressources humaines. Mboso Kodia préside la plénière.
Présenté par nos services administratifs, nous renseigne que sur 500 députés nationaux, 279.
Satisfait de l'issue favorable de cette situation, le député Jacques Joly du MLC estime que tout s'est passé dans le respect du règlement intérieur.
L'article 31 a été totalement respecté. Le bureau d'âge a convoqué la plénière pour jeudi 10 à 10h, pour l'examen des différentes pétitions. Donc, dès demain, les 6 membres du bureau recevront leur invitation à venir présenter leur moyen de défense.
Il faut rappeler qu'avant cette installation, l'Assemblée nationale a vécu une deuxième journée d'affrontement, faisant état d'une personne blessée et plusieurs chaises cassées.
Professeur Daniel Mbao Soukissa, vous êtes député national et secrétaire national du MLC en charge des questions juridiques et des droits humains. Vous êtes parmi les pétitionnaires. Que reprochez-vous concrètement au bureau Mabunda?
De manière globale, le bureau Mabunda est reproché des négociations. Et le bureau
Mamounia est reproché d'incompétence et de faute grave. Je n'invente rien. Tous ces reproches sont circonscrits dans l'article 25 de notre règlement intérieur. Depuis le début de la législature, à ces jours, nous assistons à des plénières qui sont généralement convoquées à des heures indues. Nous subissons chaque jour qui passe une expression du respect des sacralisations de la deuxième institution. Il arrive par moments que Mme Abouda puisse nous embrigader dans des querelles politiciennes et partisanes creuses, qui finalement livrent les élus nationaux en pâture et à la vindicte de la population. Et j'aimerais dire que depuis qu'elle est au perchoir avec son groupe politique, Mme Abouda s'est organisée à caporaliser le débat parlementaire, ce qui est inacceptable. Or, en réalité, le Parlement, c'est un cadre de foisonnement d'expression de la démocratie. Et c'est même le cœur des enjeux du système institutionnel. Plus encore, c'est quatre sessions, que nous remarquons un blocage systématique des initiatives des députés nationaux. Donc, il y a une forme de filtre mécanique qui est instituée au bureau de Mme Abouda, qui consiste à faire l'étude et les choix des initiatives parlementaires. Il n'y a pas de contrôle efficient et efficace, et il n'y a pas non plus prospérité des initiatives législatives des députés nationaux. Moi-même, je suis victime. J'ai déposé des propositions de loi qui n'ont jamais été débattues en plénière, et il y a le loi Christophe Toulouse qui en souffre, Jacques Joly. La liste ne sera pas exhaustive. Donc, de manière globale, à cause de Mme Abouda, notre Parlement de la troisième législature, ou notre Chambre basse, s'est transformé en une chambre d'enregistrement ou une caisse de résonance. Le travail qui s'est fait là, à mon avis, n'est pas un travail efficace.
Professeur Daniel Mbaou, est-ce que c'est en toute conscience que vous avez décidé d'apposer votre signature pour le départ du bureau Mabunda? Parce qu'une certaine opinion se raconte que vous avez été corrompu par l'UDPS pour avoir votre signature pour faire partir le bureau Mabunda.
Madame, je peux vous avouer que je suis opposant. Et ma mission fondamentale dans le cadre d'un parlement sérieux, c'est de contrôler. Et à chaque fois que je rencontre des opportunités de contrôle, je dois m'y mettre. Parce qu'en réalité, nous sommes dans un régime qui nous offre un cadre comme celui-ci, ça veut dire que nous avons face à nous un gouvernement de la majorité qui est contrôlé par l'opposition et arbitré par les peuples en fin de compte. Mon travail, c'est le contrôle. Et je ne peux pas me faire soudoyer pour contrôler, madame. Et ce contrôle doit commencer à l'Assemblée nationale. Et c'est poursuivre dans le gouvernement et dans d'autres institutions publiques. Et madame, c'est quand même assez décevant que lorsque l'on parle des questions de la République, qu'on ne mette pas assez sérieux. Un député national, ça se fait par corrompre, avec des petites sommes, des idées, non pas du tout. Et puis madame, s'il y a des gens qui corrompent dans ces pays, nous les connaissons, c'est le cas de M. Ndoukou, qui corrompt depuis la révision, même bien avant la révision constitutionnel du 20 janvier 2011. On sait qui corrompt dans ces pays. On sait leur modus operandi. Vous voyez, comme qui dirait, on serait tous dans une hypothèse de qui est plus celui qui croit prendre. Donc, ils corrompent et comme ils ont ça en allergène, la corruption, ils soupçonnent quiconque qui prend une initiative parlementaire de contrôle. Alors, ils n'ont aucune preuve. S'ils affirment qu'ils ont des preuves de corruption, ils n'ont qu'à aller déposer devant l'autorité judiciaire ou au cas contraire, les députés qui voient leur personnalité être salie initieront des actions judiciaires contre ceux qui prétendent que les députés se sont fait corrompre parce que ça ferait quand même une diffamation et imputation dommageable.
Dans un communiqué signé lundi, tard dans la nuit, par le deuxième vice-président du bureau de l'Assemblée nationale, Boniface Balamagué, il a été dit dans ce communiqué que toute aventure hasardeuse de convoquer par voie biaisée les députés est illégale. Seule Jeannine Mabunda a le pouvoir exclusif de les convoquer.
Vous savez, ce sont les gens qui lisent les textes juridiques en diagonale. En fait, ils utilisent des textes pour des fins instrumentales. L'article 31 est clair. En pareille occurrence, lorsque tous les membres du bureau sont individuellement mis en cause et les doigts et l'âge qui président la plénière. Et les mesures qui sont circonscrites dans cet article sont des mesures dites provisoires et des mesures d'urgence. Donc, Mme Mabunda, en ce moment, ne peut plus poser les actes ni convoquer une quelconque plénière. Parce que déjà même si elle pouvait convoquer une plénière en temps normal, nous avons vu que dans le chef de Mme Mabunda a une très mauvaise foi. Le 8 décembre, Mme Mabunda convoque une plénière avec pour ordre du jour la communication du bureau, alors que Mme Mabunda était pleinement au courant qu'il y avait une plénière qui a été convoquée par les sénateurs généraux à la même date avec pour ordre du jour la mise en place du bureau d'âge. Donc ils sont caractérisés par la mauvaise foi. Et ils sont dans une dynamique de blocage et ils sont en train de faire une complication malheureuse. Pour eux, ils vont aller de blocage en blocage jusqu'à l'expiration de la session. Comme ça, la question va être envoyée immédiatement. Donc nous disons que nous ne laisserons pas aller dans ce sens-là. Nous allons appliquer notre règlement intérieur dans ces dispositions pertinentes qui sont circonscrites à l'article 31 que j'ai évoqué tout de suite.
Professeur Daniel Mbaou, est-ce que vous pouvez nous dire avec précision combien de députés ont signé la pétition? Parce qu'on a l'impression qu'on assiste à une guerre de chiffres du côté du FCC. Nous apprenons que plus de 300 députés ont renouvelé leur confiance au bureau Mabunda.
Non, pas du tout. Ça, ce sont des aventures de mauvais goût. Vous savez, lorsqu'on parle des questions de la République, il faut plus de responsabilités de créer. Et ils utilisent des listes qui datent il y a des mois. Et ils joignent ces listes aux communiqués récents. C'est pas quand même sérieux. Lorsque vous lisez ces communiqués-là, entre guillemets, cet acte-là de soutien de Mme Mabunda, regardez cet acte-là de soutien. Vous voyez qu'il y a même des députés qui sont pas avec nous, qui ont signé. C'est pas quand même sérieux. Et donc, c'est une initiative qui n'est même pas réglementaire, madame. Donc, le FCC est habitué dans la violation des textes, même par moments, à l'ignorant des textes. Comment voulez-vous que vous puissiez compter une initiative réglementaire par une initiative qui n'a aucun fondement juridique? La motion de soutien qui est faite. Mais on a compris que derrière cette motion de soutien, c'est le soudainement à la corruption. Rien d'autre.
François Nzekouye, député national et porte-parole du PPRD, parti membre du Front commun pour le Congo. Les doyens d'âge des députés, assistés des deux plus jeunes députés, ont pris hier mardi les commandes du bureau de la Chambre basse après deux jours de vives tensions entre les députés pétitionnaires et les pro-bureaux Mabunda. Quelle analyse vous faites de cette situation?
D'abord, je dois saluer mon jeune frère Daniel Mbaou et l'autre co-débatteur dont je m'excuse de ne pas, d'avoir pas retenu le nom.
Josca Kaninda.
Je dois dire que par rapport à ce théâtre que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, théâtre de très mauvais goût du reste, et c'est une aventure tendant à vouloir confisquer une majorité par des voies illégaux. Mabunda n'est qu'un bouc émissaire dans cette aventure machiavélique conçue par nos amis de l'UDPS, dans laquelle les opposants sont tombés comme des petits lièvres dans un guet-apens. Premier épisode de cette aventure, d'abord, Daniel veut donner l'impression qu'ils n'ont pas été corrompus. Je l'affirme haut et fort que la pétition a été signée sur base de corruption. Et lui, en bon juriste, il sait que la fraude corrompt tout. Ils ont été corrompus. Et le 9 novembre, nous avons siégé à l'Assemblée nationale et une résolution a été prise pour ne pas considérer les pétitions qui ont été créées sur base de la corruption. Deuxième étape, les amis pétitionnaires viennent déposer leur pétition samedi après-midi. J'étais présent. Les dossiers étaient entre les mains de Tony Mwamba accompagné de Jama Kabund. Au moment où le bureau de l'Assemblée nationale avait fermé, pourtant ils avaient la possibilité de déposer avant midi parce qu'il y avait une conférence de la SADC et toutes les autorités étaient là et l'administration également. Troisième épisode, à 19h, on va kidnapper le secrétaire général par le service de la mer, l'amener en babouche à l'Assemblée nationale, l'obliger à prendre des documents qui ne sont pas destinés. Dès lors que les membres du bureau sont tous présents suite à ça, le secrétaire général n'avait aucune responsabilité à réceptionner des courriers d'un membre du bureau. Quatrième épisode, on brutalise, on casse le bureau du rapporteur adjoint pour le faire obliger à recevoir des documents qui devraient être remis à son service courrier dans l'acharnement pour donner un discours au président de la République donnant l'impression qu'il aurait une majorité tout simplement à cause des pétitions. Je me demande de quelle manière on peut considérer qu'une majorité s'est effritée simplement à cause des pétitions. Cinquième épisode, on fait convoquer la plénière par un secrétaire général qui n'a aucune compétence en cette matière. Je vous rappelle que tel l'article 8 de notre règlement dit que l'Assemblée nationale s'est réunie de plein droit en session extraordinaire le 15e jour suivant la proclamation des résultats par la CENI et cette plénière est présidée par le secrétaire général pour installer les doyens d'âge et les deux députés plus jeunes. À aucun autre moment, j'ai mis à défi Daniel Mbaou de me montrer quelle autre disposition de notre règlement permet au secrétaire général de convoquer une plénière. Il n'y en a aucune. C'est le sixième épisode. Hier, on va violenter les directeurs de cabinet et les deuxièmes vice-présidents dans son bureau par le collègue Java Kaboun, accompagné des personnes en armes qui ont pointé des revolvers sur les deuxièmes vice-présidents de l'Assemblée nationale. Ils ont tabassé les gardes du corps du directeur de cabinet du président de l'Assemblée nationale. Ils ont désarmé tous les policiers commis à la garde et de la présidente de l'Assemblée nationale en plein parlement. Et ils sont allés jusqu'à leur domicile pour désarmer leurs gardes et celui de Laurent Balamague et celui de la présidente de l'Assemblée nationale, pourtant encore membre du bureau de l'Assemblée nationale. Pour faire une plénière par un directeur de séance ou de ressources humaines, pas aucune qualité. Au moment où les députés étaient au palais du peuple, on les a fait chasser par les militaires de l'UDPS qui ont brutalisé les policiers. Vous avez vu vous-même vos images.
Mais ceux du PPRD, ceux du PPRD aussi ont... Les militants du PPRD aussi ont aussi brutalisé les députés de CASH et de l'opposition. Ils ont brutalisé les pétitionnaires.
J'ai vu entrer dans l'enceinte du palais du peuple des hordes des militants qui ont été introduits par Zama Kaboun, vous avez vu au portail de l'Assemblée nationale, pour qu'ils puissent venir violer le siège de l'Assemblée nationale. Est-ce qu'il est possible aujourd'hui que les députés puissent travailler dans la sérénité pour pouvoir examiner ces pétitions, dès lors qu'ils savent qu'à tout moment, ils peuvent être attaqués par des militants qui sont plus violents et qui dépassent la capacité de résistance de la police? Est-ce que les députés ont été élus pour travailler sur la corporisation? Nous avons entendu en public l'honorable Jean Kaboun faire des menaces de mort en disant qu'aujourd'hui, les gens vont mourir dans ce Parlement. Nous n'avons pas été élus pour mourir. Nous avons été élus pour servir la nation. Et donc, quand les conditions de sécurité ne le permettent pas, nous ne voyons pas dans quelles conditions nous devons siéger. Vous avez vu dans la salle
François Nzekouye,
comptabilisé comme les députés nationaux. Il n'y avait que 178 députés, il y a des preuves. Sinon, on va voir la liste de présence demain. On se rendra compte que la salle était remplie de militaires du PPRD et l'honorable Mbosso s'est fait prendre au piège pour ouvrir une plénière au moment où le quorum n'était pas atteint. Donc nous allons d'irrégularité à l'irrégularité et aujourd'hui, Daniel Mbaou ne peut pas oser nous dire aujourd'hui que nous violons le texte parce que ils sont embrigadés dans le cas de violer du texte et il doit savoir qu'en tant qu'opposant, il n'est pas l'allié du CAS qui est membre de la coalition au pouvoir à ce jour.
Mais François Nzekouye, la pétition a obtenu quand même plus de 250 signatures. Est-ce que cela ne démontre pas qu'il y a bel et bien effritement de la majorité à l'Assemblée nationale?
Absolument pas. Un député peut avoir un problème avec un autre membre du bureau, tel est légitime, nous sommes des humains. Il peut avoir des problèmes d'humeur. Mais le fait qu'on puisse signer une pétition, ça peut être un signal d'alarme pour dire, vous me négligez, j'ai une préoccupation que vous ne prenez pas en compte, j'ai les signes pour vous alerter. Et je vous dis qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de députés qui sont signataires, qui sont revenus à la raison, et le jour où le vote va être organisé par rapport à cette pétition, vous serez sûr de vous rendre compte que la majorité est restée intacte.
Mais si la majorité, si le FCC...
Parce qu'ils considèrent que c'est la loi de la République, d'autres ont été corrompus, comme c'est le cas des députés que je viens d'entendre ici dans cette émission, et le comité des sages est en train de les attendre les uns après les autres. Les témoignages des députés sont en train d'être faits les uns après les autres. Vous avez lu dans les réseaux sociaux des messages envoyés pour conquérir des gens qui ont été envoyés à Lubumbashi. Des preuves sont en train de s'accumuler et on va se rendre compte aujourd'hui qu'on est l'état de droit et nous avons
commencé
dans une dictature et dans un état de corruption aggravé qui n'avance ni la démocratie, ni le mouvement du pays, ni le bien-être social de notre population.
François Nzekouye, si le FCC est sûr de sa majorité, elle doit laisser la procédure aller jusqu'au bout. Pourquoi on sent cette agitation du côté du FCC?
Nous ne sommes pas agités, nous voulons le respect du texte. Si les collègues acceptent que la convocation, parce que cela est encore une fois le droit du bureau, que la convocation soit faite par le bureau de l'Assemblée nationale, et qu'au moment où on va examiner, parce que j'ai l'impression que le fait, la convocation et la présidence des plénières paraissent la même chose pour mon collègue Baou, c'est deux choses différentes. Le bureau peut convoquer la plénière au moment où on examine les pétitions et les membres du bureau doivent se déporter pour laisser la place aux plus âgés et aux deux plus jeunes. Et je tiens à vous vous rappeler qu'hier, parmi les deux plus jeunes, l'un n'était pas l'un des plus jeunes. Il y a l'honorable Benjamin, j'ai oublié son nom, qui est dans la ville de Kinshasa et qui n'a pas été associé à cet exercice. Donc le bureau lui-même, sa composition est faussée, elle est irrégulière, et donc nous allons le dénoncer de demain parce que l'Assemblée nationale le bureau va convoquer une plénière à laquelle nous allons tous participer.
Pourtant, ils sont tous du FCC. Merci François Nzekouye. Jusqu'à Kaninda, vous êtes analyste politique, éditeur du journal Le Millénaire, paraissant ici à Bounia, en Ituri. Quelle lecture vous faites de la situation qui se passe à l'Assemblée nationale?
Et je note que c'est une guerre, une crise de clan politique. Il n'y a même pas une crise institutionnelle. C'est des gens qui se battent pour conserver les uns et les autres pour conquérir les pouvoirs. Et la mauvaise gestion de la coalition FCC-CACH est à la base de cela. Vous rappelez, madame, qu'au départ de cette coalition, il y a des politiciens qui sont passés pour dire qu'il y a un seul grand maître, alors qu'il y avait déjà un président de la République. Il y en a qui pensaient qu'il y avait un seul grand maître. Je sous-entendais, c'était l'ancien président, le président Kabila. Alors, la mauvaise gestion a créé des frustrations dans le camp CACH, au point que les gens ont peaufiné des stratégies pour pouvoir conquérir les pouvoirs et les pouvoirs le gérer objectivement. Moi, je ne comprends pas pourquoi, par exemple, il peut y avoir cette guerre-là dans l'Assemblée. Vous venez de le dire ici. Si réellement l'opposition, entre guillemets, si l'UDPS a réussi à réunir le montant le nombre de pétitionnaires voulus pour recevoir la pétition et que l'FCC était sûr de sa majorité, il n'y aurait pas de gesticulation. On laisserait la procédure aller normalement. Nous avons appris que les chargés de courrier avaient été obligés de ne pas être là ces jours pour ne pas recevoir les courriers. Alors, vous vous rendez compte que, quelque part, au niveau du FCC, il y a une agitation. C'est comme si le pouvoir est en train de les échapper petit à petit. Ils ont eu la douche froide avec cette histoire de la Cour constitutionnelle. Voilà encore, ils ne veulent pas qu'au niveau des parlements, ils puissent perdre. Et je pense que la guerre des chiffres n'a pas sa place. Et si on mettait l'intérêt de la population avant, cette histoire n'arrivait pas. Quand on nous dit ici que les FCC sont encore majoritaires, malgré que il y en a qui peuvent signer la pétition et rester, ça m'étonne. Moi, je sais qu'au FCC, c'est le respect, l'obéissance servile au mot d'ordre de l'autorité morale. Qu'aujourd'hui, quand on dit soutenons Mabunda, que les uns disent nous soutenons pas, ce n'est plus FCC que nous connaissons. Alors, dès lors qu'il y a déjà des gens qui peuvent ne pas respecter au mot d'ordre de Mabunda, c'est que quelque chose se passe au niveau du FCC. Mais aussi, il faut noter cette coïncidence surprenante entre la démarche de déchoir Madame Mabunda et cette sorte d'affranchissement que le président Tshisekedi veut avoir de son allié Kabila. Pourquoi ça doit se faire au même moment? C'est là que peut-être les gens du FCC peuvent penser à ce qu'ils appellent la corruption. Parce que ce n'est pas compréhensible. Mabunda, on a fait une litanie de griefs contre Madame Mabunda. Incompétence, gestion, caporalisation. Mais tout le temps là, les députés ne voyaient pas ça. Il fallait attendre que le chef de l'État décide de se défaire de son allié pour que ces choses arrivent. C'est là que ça prête un peu à suspicion.
Est-ce que la RDC est en train de se diriger vers une crise qui risque d'être difficile à gérer selon vous?
Ça dépend de l'attitude que la population va prendre. Si ce qui est fait obtient l'adhésion populaire, rien ne sera fait. Mais si la population se fissure en deux camps, alors nous allons vers les affrontements.
On sent déjà qu'il y a cette fissure. On l'a vu à Kinshasa, on l'a vu les militants du FCC contre les militants de CACH se rentrer dedans à l'Assemblée nationale. Le siège a pratiquement été violé, le siège de l'Assemblée nationale.
Madame, vous êtes à Bounia, ça fait 3 jours. Vous avez vu l'agitation dans la ville? Rien. À qui se sont les gens instrumentalisés par les camps politiques? Celui qui a pris l'argent, il a payé au Wewa 100 000 francs, ils sont dans la rue. Celui qui a eu l'argent à payer au Béret Rouge 100 000 francs, ils sont dans la rue. La population, par exemple, nous ici à l'Est, ce qui nous intéresse, nous, c'est l'amélioration de nos conditions de vie. Les guerres là, à Kinshasa, ce sont des guerres de clans politiques et des fanatiques politiques qui vont pour leurs propres intérêts. Il faut que LFCC et les CACH posent des actes qui vont dans le sens du bien-être de la population.
Les auditeurs sont très nombreux aussi à réagir au thème de ce soir. Professeur Daniel Mbaou Soukissa, on va prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Bukavu, dans la province du Sud Kivu. Vous allez réagir aussi au propos de François Nzekouye, juste après cet auditeur.
Je vous appelle depuis Bukavu, dans la province du Sud Kivu. Depuis le soi-disant discours historique du chef de l'État, il s'observe un dérapage terrible en RDC. Une cacophonie notoire. Dans ce théâtre, je me demande où est la part du peuple dans une guerre de positionnement Pourquoi les pétitionnaires sont-ils si agités? Atteindre la barre de 250 signatures leur donne le droit de chasser le bureau Mabunda par la force sans passer par vote. Pour moi, le coup d'État constitutionnel était bien planifié. Malheureusement, les bureaux de l'Assemblée nationale s'en rendent compte avec retard. Les dés ont été jetés le jour où le chef avait ignoré son partenaire dans des nominations. Tout ce qui se passe aujourd'hui au pays est une suite logique.
Professeur Daniel Mbaou.
À l'auditoire, à mon ami, après l'avoir entendu, mon distingué collègue, je l'ai senti cette fois-ci dans la frilosité, alors que chaque fois il prend parole, c'est l'arrogance. Et je sens en lui, dans ses propos, un signe eschatologique. Ça veut dire qu'il commence petit à petit à perdre vitesse et prend la vie d'un opposant. C'est difficile d'avoir cette posture. Je comprends, je lui concède. Je dirais que Ndoukou n'est pas en bonne enseigne pour parler de la moralité dans ces pays. Pour moi, Ndoukou est au Parlement et c'est celui qui fait des dictats. C'est celui qui distribue des espèces sonantes et trébuchantes. Et lorsqu'on parle de la conviction à l'Assemblée nationale, on sait qu'il corrompt. Et donc, il n'y a pas ici à doigter les gens pour dire que vous avez été corrompu alors que vous n'avez pas de preuves. Vous-même qui indexez les gens, vous menez chaque fois par des convictions et vous caporalisez le Parlement par la conviction, la totale conviction. Et vous dites aussi, qu'il y a une confiscation violente de la majorité par des voies d'isolement. Je veux dire pas qu'en droit parlementaire, je suis enseignant du droit, la majorité parlementaire est un fait sociologique. C'est une réalité sociologiquement bien étalable. Elle peut croître et décroître. Elle peut se composer, se décomposer, se recomposer. Et surtout les majorités qui se recomposent, dans la plupart des cas, sont celles qui sont issues, n'est-ce pas, de coalitions composites comme SPCH. Et pareille circonstance, on en a vécu déjà en Espagne. Donc il n'y a pas ici à crier sur la corruption alors que les élus ont posé un acte de volonté, un acte qui entre dans les ressorts de leurs attributions. Et lorsqu'ils voient le désordre qu'il y a eu hier et qu'ils imputent ça à l'UDPS et à d'autres partisans, ben, je m'en moque. Parce qu'hier, moi-même, j'ai vu certains députés du FCC avec, je l'ai dit, j'assume avec responsabilité, avec des armes. J'en ai vu un, je l'ai dit, je suis même déballé en public, le noir de Tim Bouni qui avait un gilet par balle. Vous venez en plénière, vous portez un gilet par balle avec quelle intention? Et j'étais négativement sidéré de constater une telle bassesse. Et donc, il n'y a pas qu'à dire que, voilà, les militaires de l'UDPS ont fait ça, ça, ça. Mais il faut aussi chercher les provocateurs. Les militaires du PPRD sont venus et dedans, il y avait des personnes non apparentes qui avaient carrément l'intention de tout chambouler. Mais le reste de l'ordre, du coup, il dit que nous n'avons pas signifié régulièrement et que la signification des pétitions s'est effectuée tardivement. Mais je crois que le noir, du coup, il fait la politique de l'autruche. Nous sommes arrivés à 9h. Madame, tous les bureaux de l'Assemblée nationale étaient hermétiquement verrouillés, y compris les latrines. Donc on ne savait même pas où se mettre à l'aise. Et donc tout était fermé dans l'optique d'empêcher les pétitionnaires à exercer un droit constitutionnel. C'est impossible. Donc c'était une obstruction préparée. Et ce qui a fait que finalement, les pétitionnaires ont dû patienter jusqu'à au-delà 13h pour voir le droit de loi d'activité séquestrée dans la résidence de Mme Mabunda sous un prétexte fallacieux que les membres du bureau étaient invités pour clôturer la cérémonie de la SADEC. Et c'est le noir qui a finalement ouvert la voie à la signification. Nous, c'était la présence de loi, nous n'aurions pas signifié. Mais ce que nous avons aussi noté avec Amnatune, que lorsque le noir était tenté dans son bureau, l'UFCC s'est organisé à un sous au service de cadenasser les bureaux. Donc le noir a été aussi séquestré dans son bureau. Il fallait faire une longue pression pour obtenir de ces services-là instruits par le FCC à ouvrir de sorte à permettre aux huissiers de justice d'atteindre le droit. En termes de signification, il n'est pas avocat, il est spécialiste en environnement. Il doit noter que lorsque un huissier signifie, la signification, elle est valable.
Être donc, spécialiste en environnement ne peut pas vous empêcher de ne pas avoir quelques notions de droit. Il est avant tout député national.
Il a dit, il a évoqué l'exception du règlement, mais sans lire le grand service public, c'est un grand cours de 120 heures et sans donner inférer des implications qui découlent du droit administratif. Lorsque vous organisez à fermer a ordonné la fermeture intentionnelle des bureaux pour empêcher l'accès aux pétitionnaires. En réalité, vous paralysez l'administration, vous paralysez le fonctionnement normal de l'administration. Il y a des théories qui découlent les lois administratives qui peuvent être évoquées pour régulariser la procédure. Je parle ici de la théorie de la consulter un service public. Et donc, il a lu le droit, mais de manière parcellaire, c'est-à-dire qu'il a lu les dispositions du règlement intérieur sans associer ces dispositions du règlement intérieur au système juridique tel qu'il est organisé. Parce qu'il n'y a pas que ces dispositions, il y a également des dispositions du droit administratif. Donc, la théorie du fonctionnaire, en fait, et même la théorie de la quantité des services publics étant, ça nous a permis à combler cette lacune, cette carence qui a été intentionnellement voulue et provoquée par le FCC.
Merci.
Et il vous souviendra que lors de la législature passée, le FCC, ils se sont comportés de la même manière. Il y a une pétition dirigée contre Mina pour cette fois-là, ils n'ont même pas convoqué une séance à la plénière. C'est le droit des écouilles qui a parrainé tout ça. Ils sont arrivés, ils ont organisé une plénière cavalière pour rendre compte combien ils sont irréguliers, combien ils jouent au banditérisme constitutionnel.
François Zécouille, on va prendre aussi pour vous cette réaction qui nous vient de Mbandaka dans la province de l'Équateur.
C'est Junior Bonpong à partir de la ville de Mbandaka. L'imbroglio politique s'invite à l'ordre institutionnel que la RDC ne peut se permettre en prorata des aléas économiques occasionnés par la COVID-19. La crise qui se dessine risque d'embraser le pays dans un chaos inédit qu'il faut à tout prix chercher comment éviter. Si l'expérience de l'alternance du pouvoir est mal répétée, chacune des parties à la coalition, donc RDC cache, on tirera les responsabilités. Car à l'heure actuelle, la RDC mérite mieux que ce que nous vivons.
François Ndékouyé.
Absolument, je suis totalement d'accord avec l'auditeur. Les amis ne pèsent pas suffisamment la gravité de la situation qu'elle crée. Aujourd'hui, vous avez suivi la déclaration de l'unité provinciale du Lualaba qui nous met en garde et qui pratiquement ont des relents sélectionnistes face à la crise que nous connaissons. Nous devons absolument faire très attention. Nous jouons avec les feux. Je veux dire, nos amis du cash jouent avec les feux. Il faudrait vraiment prendre la mesure de la situation et de considérer que nous avons un seul pays. Nous devons garder l'unité de la nation et que l'envie de voir sa volonté personnelle être réalisée et bien au-delà des intérêts de la nation, et bien doit être plutôt soumis aux intérêts du peuple congolais, à la constitution et aux lois de la République. Alors je reviens sur des allégations mensongères de mon jeune frère très estimé Daniel Mbao. Il me dit quel jour il m'a déjà vu moi distribuer l'argent au Parlement. Je ne l'ai jamais fait et je peux en témoigner tous les collègues députés de l'Assemblée nationale pour dénoncer ces mensonges inutiles que mon jeune frère veut raconter dans les médias. Deux, il dit que j'ai lu de manière horizontale le texte du règlement intérieur. Ce qui est clair n'a pas besoin d'interprétation, cher frère Daniel. L'article 26 et l'article 46 disent que la majorité est constatée au début du mandat et pour toute la législature. Ce qui est accepté en Espagne n'est pas nécessairement accepté au Congo. Ce qui est accepté en Espagne n'est pas nécessairement accepté aux États-Unis. Nous avons notre droit. Nous avons notre droit constitutionnel, nous avons le loi de notre pays. Si ailleurs on accepte l'instabilité politique au sein de leur parlement, cela n'est pas consacré par notre droit. Vous êtes juriste, prouvez-moi où est-ce que un seul texte de notre règlement dispose qu'on peut changer de majorité au courant du mandat. Ça n'existe pas, c'est verrouillé par notre règlement et nous sommes prêts à demander une interprétation au niveau de la Cour constitutionnelle pour vous aider à comprendre le droit. Même quand vous êtes juriste, vous n'avez pas le monopole des connaissances. L'honorable Daniel raconte ici qu'il a vu l'honorable Kouloulou ayant un gilet pare-balles. Est-ce qu'un gilet pare-balles est une arme? Il allègue qu'il est venu avec une arme. En même temps, il dit qu'il l'a vu avec un gilet pare-balles. Donc si quelqu'un se protège, sachant qu'il est en danger, il sait que vous aviez déjà armé. Je viens de vous dire ici clairement que l'honorable Baramagé a eu un pistolet pointé sur lui par des éléments accompagnant l'honorable Ezama Kabound. Si lui, pour nous, était informé de ses actes et qu'il a mis un gilet pare-balles, cela signifie donc pour mon jeune frère Daniel que le gilet pare-balles est une arme. Voilà une nouvelle connaissance qu'il vient de nous donner aujourd'hui. Et la signification des pétitions a été faite finalement lundi et les membres du bureau l'ont accepté. Je vous informe que la précipitation avec laquelle nos collègues ont voulu absolument que les pétitions soient déposées samedi, c'est parce qu'ils voulaient donner de la matière au discours du chef de l'État. Vous l'avez entendu nous dire ici qu'il y a finalement une majorité parlementaire, comme si par le fait de poser une pétition, on a déjà comptait tous les députés qui ont traversé. C'est n'importe quoi. C'était un plan machiavélique de nos amis et nous allons le démonter. Je ne vous dis pas comment, mais sachez que la majorité, elle est bien intacte et nous allons le démontrer le mois venu.
Vous allez le démontrer demain parce que c'est demain que les pétitions seront examinées. François Nzekouye, Josca Kanindaya, Josirus, Dieudonné Dioka depuis Goma au Nord Kivu, qui dit ceci, les pétitions, oui, c'est un exercice démocratique, mais pour quelle finalité, calcul politicien, positionnement politique, vengeance ou salut du peuple, c'est quelques questions qu'il faut se poser au regard de tout ce qui se passe et à la situation politique actuelle. Doyen en âge, oui, mais la transparence, la neutralité, l'esprit républicain doivent être quelques éléments interpellateurs et tout dans le respect des textes et non pour plaire à un camp, car le peuple a besoin de changements.
Ah voilà, il a bien dit, mais notre pays a le malheur d'avoir de beaux discours. On ne traduit pas en acte. Tout ce qu'il dit là est bien beau, mais nos politiciens ne sont pas là. Nous avons une classe politique qui a une sorte d'immoralité politique au sommet de l'État. Les élites sont plus préoccupées par leurs petits intérêts, oubliant le bien-être de la population. Je peux poser la question de savoir combien de fois se sont-ils déjà battus à l'hémicycle pour des questions qui concernent le mieux-être de la population. Aucune fois. Ils se battent parce qu'ils savent que la dissolution du FCC cache, ce sont des postes qui sont partis, ce sont des privilèges qui sont partis, et ils se battent pour cela. Et nous pensons qu'il ne faut pas que nos élus et la classe politique s'intéressent plus à ses propres affaires. Je ne vois pas une crise, moi je ne la vois pas, parce que ce sont des coalisés. Comment vous pouvez être coalisé et puis un camp veut le chèque de l'autre, ou bien un camp veut le malheur de l'autre? C'est ça le problème. Ils étaient là en se jetant des pots de bananes les uns les autres et il n'y avait pas moyen d'avancer. Moi, je ne vois pas une crise venir. La crise ne peut venir que si, comme j'avais dit avant ici, si ce qui est fait ici n'est pas dans l'intérêt de la population. Pourquoi il faut se quereller sur qui doit diriger, doyen d'âge, quoi ça et tout ce qu'il y a là? Si la procédure est bonne, si ça n'a pas failli aux normes juridiques, mais laissez la procédure aller jusqu'à la fin. Et puis quand l'FCC comme il se sent fort, ils vont voter contre et le bureau va rester. Et ça serait plus facile. Pourquoi il faut instrumentaliser les gens, se battre? On parle maintenant des armes, on parle des gilets pare-balles. Gilets pare-balles, quand quelqu'un porte un gilet pare-balles, il sait déjà que là où il va, les balles vont venir. Comment lui peut-il savoir qu'il y a les balles qui vont venir? C'est que quelque part il y avait une préméditation. Moi je propose que ces gens-là utilisent la loi pour les intérêts de la population et qu'ils n'utilisent pas la loi pour leurs propres intérêts. Dans ces pays, moi j'ai vu les professeurs d'université, docteurs en droit, chacun passe au micro, votre micro de la radio Capi, pour défendre une thèse qui correspond avec son camp politique. Moi, j'ai fait même plus foi à ces grands juristes et ces grands professeurs d'université. Quand ils passent sur la place publique, ils font des analyses qui sont taillées sur mesure pour leurs propres intérêts. Vous suivrez tous ces deux camps-là. Quand je les sens parler, ils parlent avec émotion. Alors ce sont des hommes d'État qui devaient parler de manière apaisée pour apaiser la nation. J'invite la population, moi, qu'il n'y ait pas la crise. Il n'y en a même pas. Il n'y a aucune institution qui est contre une autre. Il y a deux camps politiques qui se disputent un pouvoir. Il y a des politiciens qui se disputent leurs propres avantages. Donc la population ne suit pas dans ces lignes-là. Nous avons eu Kabila, père est venu, il nous a donné de l'espoir, ça n'a pas réussi. Kabila, fils est venu, il nous a donné de l'espoir, ça n'a pas réussi. Voilà l'alternance qui vient, nous amène encore des querelles. Je crois qu'il ne faut pas qu'on continue à être au service de ces politiciens qui ne font que s'enrichir et la population tombe dans la misère.
Alors on va prendre deux dernières réactions avant de nous séparer parce que nous tournons vers la fin de l'émission. Fabrice Billy depuis la ville de Beni. Au Nord Kivu, à mon avis, il s'agit d'un nouveau paysage politique qui s'annonce dans notre pays. Il ne faut toujours pas être dans une logique de confrontation. On comprend que cet ancien bureau a été élu comme à l'époque du parti État où c'est le président fondateur qui avait le dernier mot. Il faut absolument laisser l'occasion à l'émergence d'un leadership conscient de ses responsabilités que de se ranger dans une forme de secte. Serge Mbavu, depuis Kisangani, on ne cherche pas la majorité absolue par la force, la violence et par violation constitutionnelle. On ne gère pas le pays avec des comptes à rendre. Les députés de cash et les militants de l'UDPS veulent gérer le pays sous l'anarchie et la dictature. Professeur Daniel Mbaou, nous sommes à la fin de notre émission. Quelle serait votre réaction, vous pétitionnaire, au cas où, à l'issue du vote pour faire tomber le bureau Mabunda, le FCC se retrouvait majoritaire?
Bon, madame, je mets à créer en évidence ici En réalité, l'ESCC peut toujours prétendre que la majorité, c'est son droit. La majorité parlementaire ne se décrète pas. La majorité s'éprouve. Donc, à venir, ça va se vérifier dans les urnes. Ils ne peuvent pas se caber dans la posture pour dire, écoutez, ils ont géré le règlement d'ailleurs, encore qu'ils n'ont pas la possibilité d'en prouver. Et puis, lorsqu'ils disent que le secrétaire général n'a pas compétence de convoquer la plénière, je ne sais pas si les gens lisent les textes où, lorsqu'il y a carence, il y a dysfonctionnement, il y a cessation d'activité, il y a marasme, il y a blocage, par le fait des individus qui se sont malicieusement organisés à tout bloquer pour empêcher l'examen de pétition. Mais le secrétaire général joue le rôle de la suppléance. Où il y a la carence, il convoque, et même lorsque vous lisez les termes de l'article 31, il est clair que, après qu'il a eu convoqué, le secrétaire général sort d'avance et le président qui est le plus âgé et puis accompagné de deux collègues les moins âgés qui tiennent la mesure finalement. Et c'est ce qui a été fait et les informations à notre possession afin que ce monsieur le plus âgé et nous n'avons rien inventé et ces informations ressortent de la chancellerie. Et d'ailleurs, ce qui est curieux, madame, comme vous l'avez remarqué, le moins âgé est composé essentiellement de membres du FCC. Donc, Mousse, c'est un grand ténor du FCC, et Aminat du PPRD, et vous avez Gaël Moussa et du FCC, son père est d'ailleurs ministre pour le compte du FCC. Et donc, il y a comme il prétend qu'il y aurait un certain collègue qui s'appelait Cassim, qui serait moins âgé, mais ça se vérifie toujours, ça se fait dans le consensus en plénière.
Merci.
Et la plénière peut toujours revenir et vérifier sur pièce et voir si. Il y a une erreur, mais moi je pense que ce petit juste-là, qui peut arriver par une adversaire, mais j'imagine pas qu'il est juste que la chancellerie se soit trompée, parce que la chancellerie tient ses informations de la CENI. Et que donc, ce qui a été fait hier, a été fait conformément au règlement. Donc,
merci.
Il faut dire à nos amis du FCC que lorsqu'ils lisent le règlement intérieur, ils doivent associer le règlement intérieur à la Constitution. Qui s'arrête par là? Il n'y a pas que la Constitution. Ils doivent associer le règlement intérieur aux droits administratifs. Ils doivent associer le règlement intérieur aux grands services publics. Sinon, toutes les choses faites en dehors de la coordination des éléments du système est une lecture hémiplégique. Donc les gens s'organiseraient à bloquer, à paralyser l'institution. Or, dans une démocratie parlementaire, le blocage ne permet pas le fonctionnement des institutions.
Merci, professeur Daniel Mbaou. Merci, professeur Daniel Mbaou. François Nzekouye, votre conclusion.
Et d'abord, je rappelle à mon collègue
François Nzekouye, on n'a plus beaucoup de temps, il faut conclure.
Ce ne sont pas des lois.
François Nzekouye, il faut conclure.
Ce ne sont pas des textes de loi. L'article 31 du règlement intérieur ne donne aucune compétence au secrétaire général, contrairement à ce qu'il raconte. J'ai fini par faire un appel à la paix et au sens de l'ensemble des députés et tous les courants politiques. Ce qui paraît être une simple guerre de positionnement risque de mettre notre pays à feu et à sang. Le peuple, en 2018, nous a élus pour être majorité parlement. Il a choisi son excellence Félix Tshilombo comme président de la République. Remettons-nous au peuple pour avoir une autre majorité. Demain, si on doit décider sur le sort du bureau de l'Assemblée nationale, faisons-le à la paix, dans l'entente mutuelle et cordiale.
Merci,
et
François Nzekouye.
Qui a la majorité, qui l'a pas, et le Congo survivra à nous.
Merci, François Nzekouye. Jusqu'à Kaninda. En 30 secondes, votre conclusion.
Je veux, comme il l'a dit là, il faut tempérer les ardeurs de part et d'autre. Ce pays n'appartient pas aux seuls politiciens. Il ne faut pas qu'on laisse les politiciens prendre ce pays en otage.
Merci, Jusqu'à Kaninda. Dialogue entre Congolais, c'est fini pour ce soir. Merci à toute la grande équipe qui m'a aidé à préparer cette émission, Guy Maté, Dona Madimba, Jean-Claude Loki, Bob Landou, Jean Wanda. Merci à vous tous qui avez été nombreux à pouvoir nous suivre. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.